Nous avons tous des pourquoi tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Et certains pourquoi sont vraiment forts. Par exemple, pourquoi Dieu laisse-t-il mourir les enfants innocents? Pourquoi y a-t-il tant d'injustices dans le monde? Pourquoi Dieu a-t-il laissé mon ami mourir? Pourquoi ces problèmes n'arrivent qu'à moi? Pourquoi y a-t-il la guerre en Ukraine? Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi les méchants restent-ils impunis? Pourquoi Dieu laisse-t-il les tyrans prospérer? Pourquoi Dieu semble-t-il indifférent au mal? Pourquoi Dieu laisse-t-il le monde partir à la dérive? Pourquoi? 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 Nous avons tous des pourquoi. Mais que faisons-nous de nos pourquoi? Certains choisissent de poursuivre avec leurs doutes, tout en les ignorant. D'autres deviennent cyniques et endurcis. D'autres encore continuent à se poser des questions et de chercher des réponses. Vous savez quoi? Il est possible, malgré les épreuves de la vie et de nos pourquoi, de passer de la confusion à la confiance, de passer de l'inquiétude à une vie pleine de zèle pour Dieu, de passer de la peur à la foi et même de l'angoisse à l'adoration. Habacuc est un homme qui a expérimenté cela et c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Nous continuons notre série de prédications sur les petits prophètes de la Bible. Et comme vous l'avez entendu, c'est Habacuc que nous allons découvrir ensemble maintenant. En dehors du livre des psaumes, il est rare de pénétrer dans l'intimité de la vie de prière des auteurs bibliques. Mais là, dans quelques instants, nous entrons dans les batailles intérieures et la lutte spirituelle d'Habacuc. Grâce à son expérience, nous découvrirons ce que nous devons faire de nos pourquoi sans réponse, afin de passer de la confusion à la confiance. Qui est Habacuc? Facile, un prophète, puisqu'on est dans la série des petits prophètes. Et je rappelle qu'un prophète est un porte-parole de Dieu, revêtu de son autorité et de son esprit pour communiquer son message aux hommes. Mais Habacuc est un prophète pas comme les autres, car au lieu d'être le porte-parole de Dieu ou d'adresser un avertissement solennel au peuple de Dieu, son livre commence par un dialogue avec Dieu. On pourrait dire un dialogue contradictoire avec Dieu. Même la fin de son livre est surprenante, car il se termine par un psaume. Ah bon? Un prophète qui a écrit un psaume? Un psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. On trouve cela dans le chapitre 3, verset 19 d'Habacuc. Surprenant, surprenant. Alors, allons-y. Je vais répondre à cette question. Que devons-nous faire de nos pourquoi? Premièrement, dire à Dieu nos pourquoi, tout simplement. La première chose à faire, c'est de dire à Dieu nos pourquoi. Je vous invite à lire Habacuc, donc chapitre 1. Nous allons commencer les versets 2 à 4. Je cite. « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Fin de citation. Waouh ! Nous sommes dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui est Israël. Et Habacuc souffre à la vue du déclin moral et spirituel du peuple de Dieu. C'est le désordre dans le royaume de Juda. Le peuple de Dieu a cédé à d'innombrables péchés. Il y a de la violence, de l'injustice, de la méchanceté et de l'animosité. Et pour couronner le tout, le peuple ne respecte plus la loi de Dieu qui entraîne de plus en plus la société dans le chaos. Habacuc a soif de justice. Il désire voir le réveil venir du ciel afin que la situation soit rétablie et que Dieu soit à nouveau honoré au milieu de son peuple. Il s'ouvre donc à Dieu. Il lui dit tout ce qu'il a sur son cœur. Il interroge Dieu en exprimant ses pourquoi. Il crie à Dieu avec une profonde douleur. Il supplie Dieu. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Sa prière est intense. Il lui demande pourquoi il n'intervient pas pour remédier à cette situation dramatique. Qu'attend-il pour intervenir pour son peuple ? Dans nos pourquoi, est-ce que nous osons dire à Dieu ce qui ne va pas dans nos cœurs ? Osons-nous lui dire franchement nos doutes ? J'ai déjà entendu des personnes me dire « Devant Dieu, j'ai pas le droit de douter. » Ah bon ? Et donc ces personnes avaient peur de poser des questions de doute, même auprès de moi ou de personnes qui sont matures dans la foi. J'ai peur de dire ceci ou cela parce que, non, un chrétien ne devrait pas douter. Ah bon ? Est-ce que nous sommes capables, comme l'a fait Habacuc, d'implorer Dieu comme dans une prière intense face à ce qui est pour nous douloureux ? J'ai souvent dit aux personnes, et je pense que certains pourront se reconnaître, j'ai souvent dit aux personnes qui souffrent d'oser exprimer leur souffrance à Dieu. Car c'est en exprimant ce qui nous accable que nous pouvons éprouver sa consolation, la consolation de Dieu. Il n'y a rien de mal à exprimer nos doutes, nos fardeaux, ce qui ne va pas dans la présence de Dieu. Exprimer notre douleur à Dieu peut être difficile, mais cela en vaut la peine, car c'est ainsi que nous ferons l'expérience de sa consolation. Je reste convaincu de cette pensée. Nous limitons la consolation et l'action de Dieu dans notre vie lorsque nous ne lui exprimons pas nos luttes intérieures. Alors osons lui dire ce qui ne va pas, ce qui nous pèse, nos doutes, nos peurs, nos tentations. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour le faire, pour oser exposer ainsi nos souffrances. Soyons convaincus que Dieu est présent, même si nous ne le voyons pas ou ne sentons pas sa présence. Notre Dieu nous écoute et il veut agir au cœur de notre combat parce qu'il s'intéresse vraiment à nous. Une autre chose est exemplaire chez Habacuc, c'est sa soif de justice. Sa soif de renouveau, sa soif de voir le peuple de Dieu revenir à Dieu pour qu'il règne en lui et dans toutes les sphères de la société. Avons-nous une telle soif de Dieu ? Avons-nous soif de voir l'Église grandir dans la sainteté, dans l'amour pour les autres ? Avons-nous soif que la société soit plus belle et plus soumise à Dieu, notre Créateur qui nous aime tant ? Aspirons-nous à voir la justice de Dieu restaurer l'injustice de notre société ? Mes amis, tout comme Habacuc, nous devons avoir cette soif. En fait, un véritable croyant qui a reçu le Saint-Esprit a cette soif. Et si elle n'est plus, c'est qu'il y a un problème. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus invite ses disciples à avoir soif de justice. Désirons que la justice de Dieu se manifeste partout, au point de prier intensément, comme l'a fait Habacuc, pour qu'elle vienne, osant même dire à Dieu nos pourquoi. Mais des pourquoi qui sont centrés sur Dieu, pas sur moi. Notre Dieu, nous ne comprenons pas tout ce que tu fais dans notre vie, ni dans le monde, ni dans l'histoire, mais nous crions à toi. Agis dans notre situation, agis dans nos familles, agis dans l'Église, agis dans notre pays, agis auprès des chrétiens persécutés, agis en Ukraine, partout où il y a de l'injustice, que vienne ton règne. Nous t'en supplions, agis. Après la plainte d'Habacuc, Dieu lui répond ainsi. Donc chapitre 1, versets 5 à 7. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Fin de citation. Dans ces paroles, Dieu annonce l'avènement d'un règne de terreur et d'injustice encore pire que l'actuel. Au lieu de donner à Habacuc un mot d'encouragement, il en a besoin. Un mot d'espoir pour l'avenir. Dieu parle d'une époque encore plus terrible pour le peuple de Dieu. Le prophète réclame un réveil pour le peuple de Dieu, mais Dieu promet un jugement pour son peuple à travers les Chaldéens, qui est l'un des peuples les plus gentils de l'époque. Non, les plus terribles. À première vue, cela n'a aucun sens que Dieu parle de cette façon. Habacuc continue donc sa plainte et c'est pourquoi. Donc versets 12 et 13, je cite. « N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel ? Tu es mon Dieu, mon saint. Tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? Et jusqu'au verset 17, Habacuc exprime son incompréhension du plan de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu veut juger son peuple alors qu'il lui demande un réveil. De plus, il ne comprend pas pourquoi Dieu, qui est saint et qui a le mal en horreur, a choisi les Chaldéens, un peuple réputé pour sa méchanceté et bien plus corrompu, violent et idolâtre que le peuple de Dieu. Comme Habacuc, nous luttons nous aussi pour comprendre ce que Dieu fait dans nos épreuves. On a du mal à comprendre les choix qu'il fait dans ce monde qui va mal. Sa façon de faire peut nous faire croire qu'il ne se soucie pas de nous, qu'il ne se soucie pas du monde dans lequel nous sommes. Mais au final, nous nous trompons. Et attention, Satan fera tout pour nous faire douter de l'amour de Dieu par tous les moyens possibles. Ne le laissons pas nous influencer, en nous convainquant d'un si gros mensonge. Dieu nous aime et il voudra toujours le meilleur pour nous et pour l'humanité qu'il a créée, même si on ne comprend pas ce qu'il fait dans l'histoire. Que faire de nos pourquoi ? Deuxièmement, s'attendre à la réponse de Dieu. Habacuc aurait pu rejeter Dieu avec sa réponse négative, incompréhensible et insatisfaisante. Mais Habacuc persévère dans la prière. Voici ce qu'il fait d'étonnant. Au chapitre 2, verset 1. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » Habacuc, ici, est vraiment exemplaire. Il ne dépasse pas les limites dans ses propos qu'il tient sur Dieu, comme à un moment donné, Job l'a fait. Il ne cède pas au découragement, à l'apitoiement sur lui-même, comme l'a fait le prophète Jérémie. Habacuc, tout en exprimant librement ce qui lui pèse, ce qu'il ne comprend pas, ou ce qui lui paraît inacceptable, demeure de bout en bout, dans une juste attitude de confiance et de soumission à son Dieu. Habacuc sait que Dieu n'est pas comme nous, et qu'il peut agir d'une manière qui nous est parfois étrange. Je crois que Habacuc veut continuer à croire que Dieu est amour parce qu'il sait que Dieu a toujours agi pour le bien de ses enfants dans l'histoire. Il exprimera dans le chapitre 3, où on a des images qui font penser à l'Exode, à ce Dieu qui s'est manifesté de manière miraculeuse pour délivrer son peuple. Après avoir exprimé à Dieu nos pourquoi, nous devons nous attendre à sa réponse. Dieu veut répondre, mais ne fournira pas toujours les réponses que nous recherchons, les amis. Comme ça a été le cas pour Habacuc. Les voix de Dieu sont souvent mystérieuses. Il agit en son rythme, pas au nôtre. Ses desseins avancent selon son propre calendrier. Mais il ne révèle pas entièrement à ses enfants ce qu'il fait. Comme le dit Jonathan Lamb, nous avons parfois des attentes particulières quant à la manière dont Dieu devrait agir dans notre vie et dans le monde. Nous pensons savoir quelle réponse devrait être apportée à nos prières. Comme si nous étions plus sages que Dieu. Mes amis, ne nous accrochons pas, j'ose le dire, ne nous accrochons pas à nos attentes, car nous ne sommes pas Dieu. Nous regardons toutes les situations sous un angle limité et notre sagesse est également très limitée. Mais Dieu voit les situations sous un angle complètement différent et sa sagesse est sans limite. Si Dieu ne fournit pas toujours les réponses que nous recherchons, nous devons savoir ceci ce matin. À travers notre épreuve, à travers les choses qui sont difficiles, nos pourquoi, Dieu veut continuer à façonner notre cœur. Il veut se révéler à nous. Il veut nous faire grandir dans la foi et nous faire passer de la confusion à la paix. Malheureusement, dans notre génération Internet où tout va vite et où chaque temps libre est rempli de quelque chose, il est difficile de s'arrêter pour se taire en présence de Dieu et l'écouter. Et pire encore, quand nos pourquoi nous éloignent de Dieu ou nous font croire que Dieu ne nous aime plus, nous ne voulons plus l'écouter. Pourtant, c'est ce dont nous avons le plus besoin si nous voulons avoir sa direction dans notre situation. Nous avons vraiment besoin de faire silence en présence de Dieu pour l'écouter. Pour écouter Dieu, la Bible, la parole de Dieu, est une source extrêmement indispensable pour nourrir notre foi et notre confiance en lui. Un cœur à cœur avec Dieu est plus que nécessaire dans nos doutes et nos pourquoi sans réponse. Dieu va ensuite répondre à Habacuc. Chapitre 2, versets 2 à 4. Je cite. « Et l'Éternel me répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. » Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra par la foi, par sa foi. Fin de citation. Cette fois, Dieu va dire quelque chose de positif là. Il encourage Habacuc à écrire et à attendre la réalisation d'une révélation qu'il lui donnera. Dieu veille à ce que cette prophétie soit rédigée et disponible car elle est d'une grande importance. Avant de lui donner sa révélation, Dieu lui dit que le juste doit vivre par la foi. C'est ainsi que Dieu invite Habacuc à tenir bon dans l'adversité, à lui rester fidèle et à lui faire confiance en attendant l'accomplissement de sa promesse, même si celle-ci tarde à venir. Voici maintenant la révélation de Dieu. Alors, je ne vais pas tout lire, ce serait long, mais jusqu'au verset 19, Dieu dit que 5 malheurs s'abattront sur les Chaldéens. Ce qu'ils ont fait au peuple de Dieu, donc les Chaldéens, retombera sur eux. C'est ainsi que Dieu mettra fin à leur prospérité. Dieu révèle ainsi à son prophète sa souveraineté et qu'il reste au contrôle, qu'il est un Dieu de justice. C'est une excellente nouvelle pour nous ce matin. Il y a tellement de tyrans, de dictateurs, de personnes qui continuent encore aujourd'hui à être terribles auprès de tellement de personnes qui meurent. Un jour, Dieu mettra fin aux tyrans de ce monde. Amen! Un jour, toute méchanceté finira. Finiront. Mais dans ce que Dieu dit, il y a encore mieux. L'affirmation « le juste vivra par la foi » pointait vers une personne. Une personne glorieuse. Une espérance encore plus grande que toute libération terrestre. Cette affirmation pointait vers Jésus-Christ, qui donnerait sa vie pour rendre totalement juste tous ceux qui placent leur confiance en lui. Habacuc ne pouvait pas encore comprendre tout cela. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul reprendra cette déclaration « le juste vivra par la foi » pour enseigner que Dieu peut nous rendre totalement justes devant lui par notre foi en Jésus-Christ. Cette vérité est extraordinaire et elle est accessible à tous aujourd'hui. Si vous ne vous êtes jamais approché de Dieu, ou si vous n'avez pas l'assurance de sa présence, l'assurance de la vie éternelle, venez à Jésus-Christ maintenant. Mettez toute votre confiance en lui, en son œuvre à la croix. Dieu vous pardonnera, vous rendra juste, vous donnera la vie éternelle. Et il viendra habiter en vous par son esprit. Quelle immense bénédiction. Dans notre texte, Dieu donne ensuite... On a l'impression que ça grimpe au niveau des bénédictions. Dieu donne ensuite l'une des promesses les plus grandioses de toute la Bible. Chapitre 2, verset 14. « Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Par cette promesse, Dieu rassure son prophète. Toutes les gloires humaines, toutes les puissances de ce monde, tous les royaumes de la terre prendront fin un jour. Mais la gloire suprême de Dieu sera pleinement manifestée et remplira la totalité de la terre pour toujours. Quelle promesse ! Nous avons ici la promesse d'un monde glorieux, rempli de la connaissance, de la présence et de la gloire de Dieu. La déclaration d'Habacuc reprend à quelques détails près l'affirmation du prophète Ésaïe, qui avait dit aussi qu'il n'y aurait plus de mal ni de destruction dans ce monde. Ésaïe 11, verset 9. Ce qui est décrit ici, vous l'entendez, c'est le paradis, C'est la nouvelle terre que Dieu prépare, où sa justice habitera pleinement. Quelle incroyable espérance nous attend. Que faire de nos pourquoi ? Troisièmement, faire confiance à Dieu au milieu des épreuves. Au milieu des épreuves. Il y a au chapitre 3 un tournant dans la prière d'Habacuc. Dans la dernière partie de son livre, il écrit une chanson pour exprimer sa confiance en Dieu malgré les circonstances difficiles, sans cacher sa crainte, ses peurs. Mes amis, chantez ce que Dieu a fait ou chantez ce que Dieu fera pour nous est l'une des meilleures façons de persévérer dans les jours difficiles. À plusieurs reprises, j'ai entendu des personnes me dire « Manu, quand ça ne va pas, louange. » Ou « Je mets un chant de louange. » J'arrive pas à chanter, mais en écoutant la louange. Oh! Et quand vous venez ici, certains disent « Non, je viens pas au culte parce que ça va pas en ce moment. » Ah bon ? Mais tellement de gens sont venus ici avec de lourds fardeaux et ont reçu de la part de Dieu au travers des chants. Au travers des chants. Le chant commence ainsi, dans Habacuc 3, verset 2. Je cite, « Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Et en même temps, dans ta colère, cependant, pense à être clément. » Habacuc ici se soumet vraiment à ce que Dieu dit. C'est beau. Il dit qu'il a peur du jugement qui est sur le point de venir. Il est vrai devant Dieu. Il dit alors à Dieu de faire ce qu'il a dit et d'être quand même miséricordieux envers son peuple. Ok, ça va venir, mais si tu peux en faire un peu moins. Juste après ce verset, Habacuc s'accroche à la promesse de la venue de l'Éternel qui établira la justice. Il s'attache donc à contempler cette venue, à l'imaginer. Et il le fait en des termes qui rappellent les fois où Dieu s'est révélé à son peuple et les manifestations extraordinaires de Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est à travers une chanson qu'il a composée qu'Habacuc a nourri son espoir pour l'avenir dans les moments difficiles qu'il traverse et qui seront plus intenses pour lui et le peuple de Dieu. La fin révèle ensuite une maturité incroyable. Là, on arrive dans une maturité de foi et spirituelle extraordinaire. Je cite donc le chapitre 3, versets 16 à 18. « J'ai entendu cette nouvelle. » Donc c'est Habacuc qui parle à Dieu. « J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se disloquent, solvent. Je reste là tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger. » Le jour où la détresse foudra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos et les bovins de leur étable. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Waouh ! Habacuc, tout en étant accablé par le poids du jugement à venir, il dit vouloir se réjouir et exulter de joie au milieu du malheur. Et pourquoi ? Verset 18, « À cause de l'Éternel. » À cause du Dieu qui me sauve. Entre le début de la prière d'Habacuc et la fin, on voit qu'il est passé de la confusion à la foi, du doute à l'adoration. Il ne se réjouit pas parce que tout va bien, mais il se réjouit au milieu du malheur, parce qu'il a Dieu, le Dieu qui sauve. En Dieu, les amis, il y a un trésor d'une valeur inestimable, une sécurité indescriptible. Il y a une espérance éternelle. Dieu lui suffit. Lorsque nous sommes confrontés à des incertitudes et que toutes les choses sur lesquelles nous comptons nous sont enlevées, est-ce que nous reconnaissons que que Dieu nous suffit. Mes amis, comme Habacuc, trouvons notre satisfaction en Dieu, quelles que soient les circonstances. Comme lui, ne cachons pas nos peurs et chantons notre gratitude d'avoir Dieu dans notre vie. Chaque jour, remercions Dieu pour Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Réjouissons-nous du pardon des péchés et de la présence de Dieu en nous et du paradis qui nous attend grâce à son œuvre à la croix. La fin du livre nous donne une dernière clé essentielle pour tenir bon au milieu des épreuves. Habacuc dit « L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables. » Comme le dit Habacuc, seul Dieu est notre force. Et il peut nous donner la capacité d'affronter nos doutes, nos questions, nos pourquoi sans réponse, avec une confiance inébranlable. Alors puisons notre force, toutes nos forces en Dieu pour persévérer dans notre marche avec lui au milieu des épreuves. Je conclus. Que faire de nos pourquoi ? Dire à Dieu nos pourquoi. Bien sûr, en restant centré sur Dieu. S'attendre à la réponse de Dieu. Tout en sachant que la réponse peut être pas forcément la réponse qu'on s'attend. Et troisièmement, faire confiance à Dieu au milieu des épreuves. En puisant notre force en lui. Je veux juste souligner ceci pour finir. Nourrissons-nous quotidiennement de la parole de Dieu afin de garder à l'esprit que Dieu nous aime, qu'il agit toujours dans l'histoire et qu'un jour sa gloire suprême et sa justice parfaite rempliront à jamais la nouvelle terre. Prions. Notre Dieu, nous avons des pourquoi sans réponse. Aide-nous à faire comme Habacuc, à te dire nos pourquoi, à attendre ta réponse et à te faire confiance au milieu des épreuves. Notre Dieu, quand nous sommes confrontés à des incertitudes et que toutes les choses sur lesquelles nous comptons nous sont enlevées, tu es plus que suffisant. Aide-nous à saisir cela. Ta grâce nous suffit. En toi, il y a un trésor d'une valeur inestimable, une sécurité indescriptible, indestructible et une espérance éternelle. Ô Seigneur, au milieu des épreuves, aide-nous à continuer à chanter tes louanges, surtout pour te remercier de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est mort, il est ressuscité pour le pardon de nos fautes. Oui, aide-nous à nous réjouir sans cesse du pardon de nos fautes, de sa présence en nous, de ta présence en nous et du paradis qui nous attend grâce à l'œuvre de Christ. Seigneur, je prie ce matin que tu fortifies le cœur de ceux qui souffrent en ce moment. Aide-les à tenir bon dans l'adversité, à te rester fidèle et à te faire confiance. Apaise leur cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen.